Alors, c'est un personnage qui a une histoire particulière. Il se trouve que je me suis inspiré pour le construire d'un personnage réel que j'ai croisé, que j'ai pas fréquenté, mais que j'ai vu plusieurs fois et qui m'avait frappé à l'époque. Je ne connaissais pas son nom, je ne savais même pas qui il était à l'époque. J'ai appris plus tard, bien plus tard, qui il était. C'est un personnage que je voyais dans un café de Montparnasse qui s'appelle Le Select, et il était frappant par sa maigreur. Et il consommait en général un café, il ne mangeait jamais rien, et il lisait attentivement, de façon quasiment sacramentelle, les œuvres de Nietzsche.
On voit
Et
ça dans votre ouvrage, hein.
absolument, et c'est ce que je
Les
constatais à l'écoute.
détails sont
Absolument.
assumés pour le personnage d'Evan Fry.
Exactement. Son vrai nom, c'était Vladimir Slepian. Il était russe, et il était né en 1930. Et son père était effectivement diplomate, et évidemment, son père avait été liquidé par Staline, et sa mère aussi, et il avait été enfermé dans sa jeunesse,
Ah, vous
dans un
reprenez ça
camp,
dans votre ouvrage, oui.
absolument, absolument, dans un camp de fils d'ennemis du peuple. Et il se trouve que, bon, il est arrivé en France en 58, ce que je conserve dans le livre, et à partir de là. Il avait, alors, je raconte une histoire qui est pour le coup inventée, mais ce qui est vrai, c'est qu'il était obsédé par la figure de Dionysos. C'était au sens propre, ce qui est assez improbable, un juif de Dionysos. Il voulait faire advenir
Alors,
Dionysos.
peut-être vous pouvez développer un tout petit peu pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui n'ont peut-être pas une culture nietzschéenne très très profonde, ce que vous appelez un juif de Dionysos, et pourquoi vous parlez de Dionysos comme de
Alors, c'est-à-dire que
particulièrement.
bon, Nietzsche, qui avait comme ambition, d'une certaine manière, qui a décrit le nihilisme, qui a parlé dans le Gai Savoir, dans le paragraphe 125 de la mort de Dieu, c'est-à-dire qui a décrit ce qui nous arrive d'une certaine manière, c'est-à-dire l'avènement du nihilisme, et qui avait l'ambition, de façon un peu confuse, de surmonter le nihilisme. C'est une ambition qui est le cœur même de son œuvre. Et dans son esprit, ça impliquait une identification à Dionysos, qui a fini d'ailleurs par. Bon, il a écrit l'Antéchrist vers la fin de sa vie, hein, il écrit l'Antéchrist. Il est à Turin, évidemment, Turin c'est Torino, et Torino c'est évidemment le taureau, hein, et Dionysos c'est par excellence un dieu qui a un rapport avec le taureau, hein, c'est le dieu aux cornes de taureau. Et il disparaît du monde, disons, commun, le 5 janvier, en se jetant au cou d'un cheval, et en croyant tout à coup être Dionysos. Donc il devient fou en quelque sorte. Ça se passe en janvier 1889. Et mon personnage, d'une certaine manière, il lui arrive quelque chose d'à peu près semblable, en 76, et il a l'impression, d'une certaine manière, de sortir du monde courant et d'être appelé par un monde intervallaire entre les vivants et les morts, et après cela, d'avoir comme vocation de faire advenir Dionysos, dans le monde, et de sauver le monde par des gestes, disons, artistiques, et c'est ce qu'il fait jusqu'à sa mort, jusqu'à cette espèce d'effondrement en face des deux magots, où il est censé approcher de la mort par la faim, parce que il se vantait d'avoir
Et alors, c'est
l'estomac.
sa première mort, hein?
Et c'est sa première mort, voilà. C'est ce moment intervallaire. Enfin, il meurt et en fait, il est repoussé de la mort et il est repoussé vers les contreforts de la vie par l'intervention, c'est ce que j'imagine dans mon livre, du rabbi. Et c'est là où quelque chose se passe. C'est-à-dire que cet homme qui s'était voué d'une certaine manière à l'inversion, à travers cette espèce d'exacerbation du nihilisme, et qui pensait se sortir du nihilisme par une forme de nihilisme actif, cet homme tout à coup entre dans une autre logique. Il est en quelque sorte restitué à sa dimension juive. Et à partir de là, il imagine une œuvre, mais ça on le découvrira plus tard, il imagine une œuvre qui a pour vocation de réparer le monde. Mais dans.
Alors, tant qu'on parle de sa dimension juive, son nom a un sens en hébreu,
Alors absolument,
Evan Fry,
il
enfin,
s'appelle
plusieurs
Even
sens, hein.
Fry, donc Even c'est la pierre, et en même temps, dans le mot Even, c'est très important pour nous chrétiens, parce que Even, en hébreu, ça contient en même temps père-fils, père c'est Ab, fils c'est Ben. Donc dans Even, il y a père-fils. Et en même temps, ce sont les mêmes lettres qui composent le mot Nabi, qui veut dire prophète. Donc c'est un mot clé dans le judaïsme, en fait. Et il se trouve que c'est un mot clé aussi dans le christianisme, puisque d'une certaine manière, c'est quand on dit Pierre sur cette pierre,
je bâtirai mon église.
C'est juste avant, il y a père et fils dans la citation, et donc c'est évidemment un jeu de mots. C'est un jeu de mots à partir de l'hébreu. Donc il y a effectivement un lien et avec les deux maisons d'Israël, je dirais, avec la synagogue et avec l'église. Et Fraï, ça veut dire libre, effectivement. Et c'est quelqu'un qui s'est rendu libre pour une expérience spirituelle, alors qui dans son cas passe par une forme, je dirais ça va au-delà d'une affiliation religieuse dans son cas, il se trouve qu'il est juif, mais ce qu'il essaye de faire, c'est de réaliser dans l'ordre artistique ce que le rabbi, c'est-à-dire un siècle avant, un siècle et demi avant, avait essayé de mettre en œuvre dans un ordre proprement kabbalistique, on va dire.
C'est-à-dire et donc là, vous vous servez de l'art contemporain et de la notion de performance.
Exactement, voilà. Il met en place une performance, et cette performance se joue en plusieurs étapes. Il y a une première étape qui s'appelle Préface au salut, il y a une deuxième étape qui s'appelle Notre sœur la mort, et il y a une troisième étape qui en fait englobe les deux précédentes qui ne sont que des introductions, et qui est la grande action. Et cette troisième étape, elle a lieu précisément à Jérusalem. La première étape avait lieu simultanément à Paris, à Rome et à Jérusalem. La deuxième a lieu à Paris, dans une galerie d'art, et la troisième, elle a lieu vraiment entre le mont des Oliviers et le mont du Temple. Elle met en rapport le tombeau vide du rabbi en Ukraine, mais qui est hors champ, et le tombeau plein du rabbi en Ukraine,
oui.
Le tombeau plein du rabbi en Ukraine, le tombeau vide du Christ à Jérusalem, et le lieu même du nom, c'est-à-dire le temple, ce qui reste du temple. C'est-à-dire le temple aujourd'hui est recouvert par une espèce de dôme, le dôme du rocher, et ce temple, c'est à la fois le lieu du sacrifice dans l'ancienne alliance, mais c'est aussi, et encore plus profondément, le lieu du sacrifice d'Abel et de Caïn, le lieu où Abraham a eu l'intention de sacrifier son propre fils, et le lieu où Jacob a aperçu l'échelle, où on monte et descend. Ce qui est le propre
c'est l'échelle de Jacob aussi.
Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est la notion même de sacrifice, c'est ce qui relie le ciel et la terre. Mmh. C'est la porte du ciel, d'une certaine manière. Donc d'une certaine manière, cette chute qu'il a faite au début, qu'on peut dire une chute vers le haut, l'amène, au terme du livre, à la porte du ciel. Et c'est là que l'opération peut se déployer, et il se passe quelque chose que je ne vais pas décrire parce que c'est trop compliqué à indiquer, mais il se passe quelque chose qui est censé...
Et puis il faut laisser au lecteur découverte.
C'est quelque chose qui est censé, d'une certaine manière, réparer le monde. Donc c'est quelque chose qui à la fois est insensible, c'est très mystérieux, c'est infime, c'est presque invisible, et en même temps c'est censé avoir une efficace, comme toute œuvre d'art, d'une certaine manière. Elle est à la fois très vulnérable, elle ne compte pour rien dans l'ordre des rapports de force, et en même temps elle a une efficace propre.
Alors ça, c'est le personnage d'Evan Fraï, qui est donc un personnage lui-même converti, puisque c'est le Dionysos qui devient rabbi.
Exactement.
Quoi.
Il fait tchouva, comme on dit dans la tradition juive, c'est-à-dire qu'il se convertit. Et tchouva, ça veut dire à la fois conversion, ça veut dire retournement, et en même temps, ça veut dire réponse. C'est qu'il est une question, et en même temps, tout le mouvement du livre, c'est le fait que cette question se mute en réponse.